France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal avec vous, Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'évacuation de la jungle de Calais, entamée ce matin, se déroule pour l'instant dans le calme et la maîtrise, affirme le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Les premiers bus sont partis peu après 8 heures, direction la Bourgogne et la région Rhône-Alpes. Alors on va vérifier les dires du ministre en allant sur place avec notre envoyé spécial dans un instant, Adrien Toffolet. Et puis avec Marie-Pierre Véraud, on verra si toutes les mesures sont bien prises pour effectivement, comme le promet le gouvernement, gérer l'après-Calais.
Journée importante aujourd'hui, peut-être la dernière pour la négociation du CETA, le fameux traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les députés wallons ne semblent pas prêts à changer d'avis sur la question. Ils maintiennent pour l'instant leur veto. Si c'est toujours le cas demain matin à la première heure, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, annulera sa venue à Bruxelles, toujours prévue pour jeudi, à retrouver également dans votre journal, Benoît Poussard.
Voilà, avec la correspondance de Quentin Dickinson, invité de la séquence interview de ce journal, le candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire et député des Yvelines, Benoît Hamon, qu'on retrouvera tout à l'heure en compagnie de Ludovic Piétenu, le chef du service politique de France Culture. Dans la deuxième partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Mossoul, Kirkouk en Irak, alors que plusieurs théâtres d'opération sont ouverts pour une opération reconquête des bastions emportés par l'État islamique. Nous recevons le Pulitzer 2016, Joby Warrick, journaliste américain, pour son ouvrage « Sous le drapeau noir, enquête sur Daesh, un retour aux sources de l'État islamique ».
Les premiers bus en direction des CAO et des CADA, centres d'accueil répartis sur le territoire français, sont partis ce matin de Calais, direction la Bourgogne pour les porteurs de bracelets dorés ou la région Rhône-Alpes pour ceux qui choisissent les bracelets blancs. L'évacuation de la jungle de Calais qui a débuté ce matin doit permettre aux réfugiés de trouver des conditions d'hébergement et une qualité de vie un peu meilleure. C'est du moins comme cela que le gouvernement français présente l'opération et Bernard Cazeneuve se félicite ce matin du calme dans lequel elle semble se dérouler pour l'instant. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour Benoît.
Vous êtes sur la Lande depuis hier pour France Culture. Est-ce que tout se passe si bien que l'annonce le ministre de l'Intérieur pour l'instant ?
Eh bien écoutez, Benoît, tout semble effectivement bien se passer pour l'instant. C'est même de manière générale aussi l'avis des associations présentes ici. Associations pourtant très critiques ces derniers jours envers les autorités. Ils dénonçaient notamment le manque réel d'informations pour les migrants sur le déroulement des opérations. Malgré ça, tôt ce matin, dès 6h, alors qu'il faisait encore nuit, les premiers migrants sont arrivés devant le SAS, la gare routière, par dizaines d'abord, puis par centaines, équipés pour la plupart de vêtements chauds et de nombreux sacs et valises. Tout c'était très calme. Certains lançaient même parfois des bails Bye Calais en souriant. Depuis 8 heures, l'ouverture des portes, les migrants se pressent contre les barrières tenues par les CRS qui essuient de temps en temps quelques mouvements de la foule comprimée. Ensuite, on sépare en catégories, majeurs, familles, personnes vulnérables et mineurs non accompagnés, chacun dans sa file, jusqu'à une première tente où ils doivent choisir leur destination. Un traducteur est là pour les guider dans leur choix, mais aussi pour parler avec eux, détendre l'atmosphère qui, il faut le reconnaître, est assez pesante et froide à l'intérieur du hangar. Une fois la destination désignée, plus le temps de traîner, ils reçoivent un bracelet de couleur, comme vous l'avez dit, à chaque destination sa couleur. Et puis, un peu plus loin, dernière formalité, on prend leur nom, leur prénom et leur pays d'origine. Aucune vérification n'est faite, les empreintes digitales ne sont pas relevées non plus. Rapidement, ils sont invités à monter dans un bus et quand il est plein ou quasi, c'est le départ. En clair, donc, tout se déroule assez vite. Un bus part toutes les 10-15 minutes. Le plus difficile, c'est l'attente, dehors, dans le froid. Certains migrants font même demi-tour et retournent dans la jungle. Trop de monde, trop de tensions, ils reviendront plus tard. Mais les autorités tablent tout de même sur 3000 départs de migrants aujourd'hui vers les CAO.
Merci Adrien Toffolet avec Marcos Daras pour les moyens techniques. La maire, les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, s'est exprimée elle aussi ce matin. Elle s'est dite perplexe sur la possibilité de mener à bien l'opération du démantèlement de la jungle. « Je ne comprends pas », explique la maire de Calais, « qu'une telle opération ait été montée sans la coopération de la ville. » Et les associations présentes sur place estiment, elles, à 2000 le nombre de migrants qui persistent à vouloir rejoindre l'Angleterre. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
On voit bien déjà monter l'idée selon laquelle il sera difficile de gérer l'après-Calais.
Mais oui, c'est évidemment la question qui est dans toutes les têtes et à laquelle pour l'instant les autorités n'apportent pas de réponse claire. Rappelons une évidence, les côtes britanniques sont à une trentaine de kilomètres, des bateaux font chaque jour la traversée, les camions empruntent le tunnel. Bref, à Calais, la Grande-Bretagne est à portée de main et de rêve. Demain, après ce nouveau démantèlement, la géographie restera la même. D'où ces inquiétudes, car ce sont les volontaires qui partent en premier ou ceux qui souhaitent un répit pour l'hiver. Les autorités ont sans doute convaincu une partie des migrants, mais outre les mineurs isolés qui ont vocation à rejoindre leur famille en Grande-Bretagne, eh bien il y a ces adultes qui ont aussi de la famille ou des connaissances là-bas, qui ont un projet de vie solide, qui parlent anglais et non pas français, qui ont un métier, des diplômes à valoriser en Grande-Bretagne. Quand on est venu à pied d'Afghanistan, on ne recule pas pour 32 km. Alors déjà, certains des migrants les plus déterminés ont quitté Calais pour Dunkerque et Grande-Synthe. D'autres se sont éloignés mais vont, on l'a entendu, revenir, comme ce fut le cas d'ailleurs après le démantèlement de Sangatte. Et puis, il ne faut pas oublier que les traversées de la Méditerranée se poursuivent. Alors, un rapport doit être remis en fin de semaine à Bernard Cazeneuve. Des pistes sur lesquelles des renvois vers l'Italie seraient envisagés, ou peut-être des mesures d'expulsion également, mais la solution ne saurait être que sécuritaire ou hexagonale, et c'est là que l'on piétine, car il y a peu d'empressement des différents États membres de prendre leur part, et surtout la solution pour Calais, ce serait que Londres signe les accords de Schengen sur la libre circulation et traite donc elle-même ses demandes. On voit bien que tout n'en est pas là.
Merci Marie-Pierre Véraud. La trêve dite humanitaire qui a permis à Alep de souffler pendant 3 jours jusqu'à samedi soir est finie, et bien finie. Les affrontements et les bombardements qui avaient cessé ont repris depuis de plus belle. Depuis hier, sur place, on a compté seulement 8 combattants blessés et 7 civils à avoir quitté le secteur rebelle. L'ONU, de son côté, n'a pu évacuer aucun blessé. Et il n'est pas question qu'il y ait une nouvelle trêve d'après Moscou. Ce n'est pas d'actualité, explique ce matin le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. D'Irak, on apprend ce matin que l'attaque de l'organisation État islamique sur Kirkouk est terminée. Le gouverneur de la province, Najmeddin Karin, fait état de la fin des hostilités et de la mort de 74 djihadistes dans l'opération. La diversion engagée vendredi par l'organisation État islamique n'aura donc pas marché bien longtemps. On voit que son territoire se réduit de tous côtés. Les forces armées irakiennes ne sont qu'à quelques kilomètres maintenant des faubourgs de Mossoul. Bonjour, Joby Warrick.
Bonjour.
Journaliste au Washington Post, prix Pulitzer 2016 et invité de la deuxième partie de la Grande Table. Cette avancée relativement rapide des forces irakiennes sur Mossoul, à laquelle on assiste depuis quelques jours, n'est évidemment pas encore la preuve attendue que l'État islamique est sur le point d'imploser.
Alors c'est très clair que l'État islamique est sous pression actuellement. Les Kurdes, les forces irakiennes ont fait de magnifiques progrès, même plus que ce qui était attendu. Et pourtant, on n'a pas encore réussi à pénétrer Mossoul véritablement. On n'a pas réussi à résoudre le problème des réfugiés, la question des boucliers humains qui n'a pas été encore résolue. Donc on a encore la partie la plus violente de la bataille à venir, je pense.
Merci Joby Warrick. On vous retrouve en compagnie d'Olivia Gesbert dans quelques minutes pour poursuivre cette discussion. D'abord, cette info qui va intéresser le journaliste d'enquête que vous êtes. Un documentaire de la BBC qui sera diffusé ce soir en Grande-Bretagne affirme que des adolescents syriens réfugiés en Turquie ont été utilisés par les sociétés britanniques Marks & Spencer et Asos. Certains sont âgés de pas plus de 15 ans. Ils auraient été amenés à travailler jusqu'à 12 heures par jour pour des salaires dérisoires dans des usines textiles. Les sociétés incriminées expliquent pour l'instant leur stupéfaction devant ces révélations.
Midi 38 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel aujourd'hui est une nouvelle journée cruciale pour le traité de libre-échange que négocient depuis 7 ans l'Union européenne et le Canada. Le Parlement wallon a jusqu'à ce soir, au plus tard demain matin, pour dire si oui ou non il change d'avis sur la question.
Et pour les Wallons, il n'est pas question de répondre à ce qu'ils présentent comme un ultimatum, ils l'ont redit ce matin. Un ultimatum ou une question logistique, la signature du CETA prévue jeudi à Bruxelles en présence du Premier ministre Justin Trudeau pourra-t-elle tout simplement avoir lieu compte tenu des délais de déplacement du chef du gouvernement canadien? Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
En direct de notre studio de Bruxelles, dernières heures de négociations, qui peut encore croire à un accord ce matin, Quentin?
Eh bien, celui en tout cas qui n'y croit guère, c'est le président du Parlement wallon, le centriste André Antoine, qui pense que les pourparlers sont certes en bonne voie, mais que l'on ne pourra pas tenir l'échéance de ce soir, au-delà de laquelle, pour des questions, vous le disiez, d'organisation et d'ailleurs aussi de simple courtoisie vis-à-vis du partenaire canadien, il ne sera plus possible de maintenir à la date de ce jeudi 27 octobre la tenue à Bruxelles du sommet euro-canadien, au cours duquel l'accord CETA devait être signé et partiellement mis en œuvre de façon anticipée. Mais les tentatives se poursuivent cependant ici. Le Premier ministre fédéral, le libéral wallon Charles Michel, entre aujourd'hui directement dans le jeu. Rien de surprenant d'ailleurs à cela, puisqu'en fin de compte, c'est sa signature seule qui valide tout traité international au nom de la Belgique. Il aura en début d'après-midi un tête-à-tête avec le ministre-président wallon, la désormais cyber-vedette, le socialiste Paul Magnette, avant de convoquer le comité fédéral de concertation qui réunit les 6 entités fédérées qui composent le royaume. Parmi celles-ci, celle des Flamands est énergiquement favorable au CETA. Celle des Wallons et celle des francophones y sont opposées. Le Parlement bruxellois s'est déclaré opposé en juillet, mais ce vote ne tient évidemment pas compte des négociations postérieures, alors que le gouvernement bruxellois, qui redoute une fracture de sa coalition, reste prudemment en retrait, tout comme la communauté des 76 000 Belges de langue allemande, pourtant implantée sur le sol wallon. C'est une façon de dire que le sort au moins immédiat du CETA dépend de la machinerie constitutionnelle belge, qui est, on le constate une fois de plus, d'une confondante complexité.
Merci Quentin Dickinson. De l'autre côté du monde, en Chine, débute aujourd'hui le plénum du Parti communiste chinois. C'est la réunion annuelle des cadres du parti. Ils seront pendant 4 jours 400 membres du comité central à discuter dans un hôtel de Pékin à huis clos. Les débats seront préservés des curieux. Il faut dire que les discussions seront cruciales pour l'avenir de la Chine, pour l'avenir du parti et pour l'avenir de son leader actuel, Xi Jinping. Bonjour Sarah Petitbon.
Bonjour Benoît.
C'est révélateur, hein, le plénum est placé cette année sous le signe de la discipline au sein du parti.
Oui, c'est une réunion effectivement déterminante pour Xi Jinping, car c'est la dernière grand-messe annuelle du Parti communiste chinois avant le congrès qui se tiendra à l'automne 2017 et qui devrait le reconduire au pouvoir pour un nouveau mandat de 5 ans, mais surtout préparer sa succession en 2022. Le président, qui s'est construit l'image du dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tse-tung, a donc fort à jouer dans ce plénum centré, vous l'avez dit, sur la discipline au sein du parti. Un parti fortement secoué par les vastes campagnes anticorruption que Xi Jinping a menées depuis 2012, lorsqu'il n'était encore que secrétaire du Parti communiste. Nombre de puissants cadres sont tombés, plus d'un million de membres ont été sanctionnés pour corruption depuis 2013, dont des dizaines de hauts responsables politiques et militaires, mais aussi des dirigeants d'entreprises étatiques. Des évictions qui ont assis le pouvoir du président, mais qui ont aussi construit contre lui de solides inimitiés au sein de l'establishment, d'autant que la croissance économique du pays a ralenti ces dernières années. Il s'agit donc pour Xi Jinping de continuer à verrouiller son leadership en imposant de nouvelles règles disciplinaires aux 88 millions de membres du PC chinois. Des mesures de fermeté qui, selon certains observateurs, masquent mal les errances du dirigeant en matière économique.
Merci Sarah Petitbon. Reste à savoir si les 88 millions d'adhérents sont à jour de leurs cotisations. C'est probablement le cas. À travers le monde, la révolution continue dans le monde des médias. Ce week-end, on apprenait la conclusion de cette méga fusion entre l'un des principaux opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis, AT&T, et le géant des réseaux câblés, Time Warner. Ça confirme que les fusions entre opérateurs de télécom et médias ne vont pas s'arrêter dans les années à venir. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Benoît.
Ça ne va pas s'arrêter, d'autant que ce genre de fusion est présenté comme cohérent avec les nouvelles pratiques de consommation des médias.
Oui, c'est que les nouveaux comportements des consommateurs obligent toute la filière média à repenser son modèle. Les nouvelles générations consommant de plus en plus la télévision dans son offre mobile, nouvelles générations très attirées par la vidéo à la demande. Les câbles opérateurs ont alors bien compris leur intérêt à s'adapter s'ils ne veulent pas faire les frais de la désintermédiation qui est en cours. Ils ont bien perçu le risque de voir les géants du net, Google, Apple, Amazon, leur manger la laine sur le dos en quelque sorte, du seul fait qu'ils se développent sans investir directement dans un réseau en s'adressant au consommateur final. Alors la parade des géants du câble, c'est quoi ? Eh bien, nous ne pouvons pas camper sur nos seuls tuyaux, il nous faut diversifier nos revenus. Et pour ce faire, rapprochons-nous des contenus, les séries, les films en tête et donc des sociétés de contenu. C'est tout le sens de cette fusion en cours, AT&T avec Time Warner.
Merci Jean-Marc Chardon.
En France, l'actualité dans les médias, c'est celle d'ITélé, bien sûr, ITélé, où le week-end a été agité. Ce matin, la rédaction de la chaîne d'information continue, entre plus déterminée que jamais, dans sa deuxième semaine de grève.
Déménagement de bureaux en douce, annonce du report du lancement de CNews, la nouvelle identité de la chaîne, et déprogrammation de l'émission de Jean-Marc Morandini. Voilà les nouvelles du côté de la direction d'ITélé. Tandis que côté journaliste, effectivement, la collègue colère continue à monter. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour Benoît.
Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur cette situation qui reste bloquée en cette mi-journée.
Oui, à 85% des voix, la grève vient d'être reconduite pour 24 heures et ce matin, lors de l'Assemblée Générale, il a été beaucoup question à la rédaction de ce week-end, vécu comme une provocation et une humiliation de plus. Les journalistes ont découvert une partie des bureaux déménagés et pour certains, leurs affaires jetées afin de faire place à la rédaction de Direct Matin, un déménagement lancé au mépris des instances représentatives, le CHSCT n'ayant pas rendu d'avis, un préalable pourtant nécessaire. Alors cela illustre bien la nature des relations avec la direction et ce midi, la discussion est toujours au point mort. Le conflit s'enlise sur deux terrains, la question éditoriale, la rédaction attend toujours des garanties d'indépendance, une charte déontologique, la nomination d'un directeur de la rédaction. Ensuite, la question sociale, la direction cherche toujours à faire partir les récalcitrants. Alors comment débloquer la situation ? Par voie de presse, la rédaction d'ITélé a fait savoir qu'elle attendait une médiation, demande sur laquelle le ministère de la Culture ne s'est toujours pas prononcé. Il semble encore chercher comment se positionner sur un sujet qu'il estime miné. Quant au CSA, il avait fini par exprimer la semaine dernière ses inquiétudes après une audition du président du directoire de Canal+, mais explique désormais qu'il n'ira pas plus loin, sauf s'il est saisi officiellement par la rédaction. La direction d'ITélé, elle, n'a pas répondu à nos messages ce matin.
Merci Catherine Pétillon, invitée de la séquence interview de ce journal. Benoît Hamon, bonjour.
Bonjour.
Député des Yvelines, candidat de la primaire de la gauche et soutien de ITélé. Vous êtes allé soutenir, voir les grévistes la semaine dernière. Ce que peu de politiques ont fait jusqu'à maintenant. Comment vous expliquez ça ?
Trois syllabes. Beau, l'eau, ré.
Le monde politique est à la botte de Vincent Bolloré, sauf vous.
Botte, mais... Non, pas sauf moi, mais je crois qu'il y a... Effectivement, un calcul qui peut être fait par un certain nombre de responsables politiques qui consiste qu'il est plus coûteux pour eux de se fâcher avec M. Bolloré à court et moyen terme et qu'en conséquence de quoi, voilà, ils préfèrent rester silencieux. Mais ce qui est frappant, c'est que on est face à un groupe dont l'image historiquement est plutôt celle de la modernité, de l'innovation, de la drôlerie, de l'impertinence. Et on voit qu'en coulisses, c'est... les bonnes vieilles méthodes en matière de précarité, une forme de brutalité, de mépris des salariés qui nous rapproche plus de ce qu'on a connu dans la première moitié du XXe siècle et encore que de la modernité, voilà.
Alors Benoît Hamon, vous êtes candidat à la primaire de la gauche. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis ce matin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui a jugé que Manuel Valls était celui sûrement qui a aujourd'hui le plus de possibilités dans l'attente d'une décision de François Hollande. Si Hollande n'y va pas, ça serait plutôt Valls dans la bouche du premier secrétaire du PS ?
Écoutez, peut-être. C'est peut-être le choix du premier secrétaire du Parti Socialiste. En tout cas, ce ne sera pas le mien. Et je pense que ce ne sera pas celui de nombreux électeurs de gauche.
Vous êtes déçu par ce...
Non, je n'attendais pas grand-chose de Jean-Christophe Cambadélis sur ce point. Je crois aujourd'hui que Manuel Valls est responsable de cette transhumance, cette migration du gouvernement sur les questions d'identité, sur les questions sociales, sur les questions du travail, qui a amené à ce qu'un gouvernement attendu à gauche se retrouve si solidement arrimé à droite. Et à ce titre, il ne me paraît pas le mieux placé pour assembler sa famille politique.
Ludovic Piétenu a pas mal de questions pour vous, Benoît Hamon. Autre déclaration ce matin, celle de Jean-François Copé, qui, lorsqu'on lui a demandé tout à l'heure, c'était sur Europe 1, son avis sur le prix d'un pain au chocolat, a répondu peut-être 10 à 15 centimes d'euros. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Benoît.
Chef du service politique de France Culture. On connaît ce genre de questions au détour d'une interview. Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour du phénomène dans les mois qui viennent à la faveur de cette année qui s'ouvre ?
Et cette question, qu'est-ce qu'on a collectivement à y gagner ? On n'y répondra pas aujourd'hui, mais c'est le genre d'erreur qui clairement disqualifie un candidat. La question vie quotidienne rendue célèbre par Jean-Jacques Bourdin sur RMC BFM TV. C'est maintenant autour de nos confrères d'Europe 1, semble-t-il, de se placer sur ce créneau-là. Et les réseaux sociaux relaient la bourde avec force parce que c'est scandaleux sans doute, parce que c'est drôle aussi et parce que c'est simple. Avant Jean-François Copé, il y avait eu cette année, on s'en souvient, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, qui ne savait pas combien de fois était limitée à un CDD. Ces questions, le renouvellement d'un CDD, ces questions ne font qu'enfoncer les portes ouvertes, la déconnexion des élites. Elles ne font que nourrir le désamour de l'opinion pour les responsables politiques, quand dans le même temps, un autre concept médiatique a fait son apparition. Et là, là encore, il y aurait injonction pour les politiques à s'y plier. L'émission de Karine Lemarchand, Ambition Intime, émission à laquelle notre invité Benoît Hamon est pour l'instant le seul à avoir refusé de participer. Grand mal lui en a pris, semble-t-il, puisque cela crée la polémique, là encore largement relayée sur les réseaux sociaux. En réalité, Benoît, comme le prix du pain au chocolat, ces polémiques sont inutiles car elles ne disent rien du fond, à part peut-être nous entraîner vers le fond. Benoît Hamon.
Oui, bah vous résumez assez bien. On perd à tous les coups. Soit on y participe à ces émissions et elles ne diront rien de votre capacité à résister au lobby privé, à tenir vos engagements, à faire face à la lutte contre le terrorisme, à éviter de rajouter à une société fracturée de nouveaux clivages, elles n'en diront rien. Ou alors vous n'y participez pas et il y a vous êtes puni. Écoutez, c'est l'air du temps.
Comment, dans ce contexte, on porte des sujets sur le fond? Comment vous arrivez à faire campagne candidat à la primaire de la gauche? À intéresser les médias, à intéresser l'opinion?
On est presque obligé de parier sur nos propres contenus, c'est-à-dire de développer nos propres médias et nos propres contenus pour essayer de faire entendre des propositions, des solutions dont on voit bien qu'elles ont du mal à percer dans les formats classiques qui nous sont proposés. Je dis pas que toutes les émissions ne permettent pas de développer des idées, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est plus difficile et qu'on est vite ramené à l'écume des choses.
C'est intéressant ce que vous dites sur les médias, on va dire, personnels de chaque candidat. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a lancé sa télé, Marine Le Pen qui vient de faire de même. Donc vous par exemple, vous allez relayer votre campagne en utilisant Internet
voilà, c'est d'abord pour la finance, une formidable liberté et opportunité que de pouvoir développer ses propres contenus. Mais si je veux parler demain des politiques de santé, de la meilleure manière de prévenir les maladies chroniques, plutôt que de ne parler que de l'organisation du système de santé, ça n'intéressera pas grand monde, et il faut que je développe mes contenus. Si je veux parler demain d'écologie, de ce qui se passe autour de la pollution de la mer Méditerranée, du fait qu'on respire un air vicié, de la nécessité demain de mettre en œuvre des politiques en matière de protection de l'environnement qui justement nous préserve d'un cadre de vie qui soit néfaste à notre santé, je suis obligé de développer mes propres contenus. Si je veux parler du CETA ou du revenu universel d'existence, c'est mieux de développer mes contenus. En tout cas, ça complétera utilement ce qui nous est proposé, ce qui ne veut pas dire que tous les médias ne s'intéressent pas au fond, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui finalement de concentrer la campagne sur ces questions.
On vous a entendu, il y a un marqueur qui semble-t-il est en train d'apparaître dans votre campagne, c'est le revenu de base. Je dis un marqueur qui est en train d'apparaître parce que vous n'êtes pas nombreux sur ce terrain. Il y a les écologistes, Michel Rivasi, Yannick Jadot, dans la primaire de l'écologie, qui proposent un revenu universel. En quoi ça consisterait, Benoît Hamon?
Ça change radicalement notre rapport publique au travail. C'est une nouvelle protection sociale puisque chaque personne majeure en bénéficierait, ce qui amène à se retrouver dans cette situation où, parce que vous avez votre revenu d'existence en plus de votre salaire, vous pouvez changer votre rapport au travail, décider de travailler moins, le cas échéant accompagner un parent dépendant, un enfant en situation de handicap, faire face à l'arrivée d'un enfant dans un couple. C'est une autonomie supplémentaire. Beaucoup de jeunes se préparent aujourd'hui à une société dans laquelle ils vont changer de métier, changer de carrière, dont avoir besoin de se former, avoir besoin de temps pour créer leur propre activité, un jour être travailleur indépendant, un jour salarié. Et pour cela, ils ont besoin aujourd'hui d'une sécurité ou d'une autonomie nouvelle. C'est pas un hasard si dans les salles où l'on parle du revenu universel d'existence, on trouve essentiellement des jeunes actifs, parce que je crois qu'ils ont bien compris la société qui se prépare. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aspire à cette nouvelle protection sociale organisée autour du revenu universel d'existence.
Ce serait près de 500 euros par mois pour le minimum, tous les adultes.
Pour qu'on puisse
majeurs.
Être vraiment autonome, il faut même envisager que ce soit 750 euros et plus. Comment le financer? C'est évidemment une question sérieuse. Et moi, je pense que dans une société où le travail se raréfie, et réjouissons-nous de la révolution numérique qui va nous permettre que l'humanité produise tout ce dont elle a besoin avec moins de travail humain nécessaire. Formidable, sauf si nous n'arrivons pas à maîtriser cette transition-là. Et pour la maîtriser, il me semble que là où des robots, des machines, des algorithmes produisent à la place des hommes, il est légitime que ces robots, ces machines, ces algorithmes contribue, par la richesse qu'il crée, au financement de ce qui nous protège, de ce qui améliore notre vie à nous, êtres humains. C'est la raison pour laquelle j'aspire à ce que la fiscalité demain prélève davantage sur la richesse créée par des machines que sur la richesse créée par des hommes.
Donc dans cette campagne, vous avez envie de parler de travail, vous avez envie de parler d'écologie. Est-ce que ce sont deux valeurs importantes à défendre pour éviter l'alternance qui semble que ce n'est pour certains comme une évidence?
Aujourd'hui, elle est probable. Et je pense que nous sommes dans un moment où on a besoin de remettre les choses à l'endroit, à gauche. S'il y a tant d'incertitudes, si la situation apparaît tellement désarmante quand on entend les points de vue des uns et des autres.
C'est la dépression collective.
Oui, c'est que les choses ne sont plus tout à fait à leur place. Et il me semble que pour les remettre à l'endroit, il faut reparler de ce que vivent les Français. Et ce que vivent les Français, c'est dans leur situation au quotidien, c'est ils ont un travail ou n'en ont pas, ils ont un logement ou n'en ont pas, ils ont accès aux soins correctement ou pas. Ils considèrent que l'éducation correspond à l'idée qu'ils se font de l'épanouissement de leur enfant ou pas. C'est à partir de cela qu'il faut démarrer, me semble-t-il, et dire de quelle manière nos valeurs se déclinent aujourd'hui. Moi, je pense qu'on vit une vraie transition de notre modèle de développement, de notre modèle démocratique, de notre modèle social, de notre rapport au travail. C'est à partir de là qu'on doit reconstruire une offre politique de gauche.
Donc vous ne vous désisterez pas à cette primaire de gauche. Vous êtes bel et bien candidat, contrairement à ce que Marie-Noël Lindemann...
Elle a démenti, je crois.
Elle a démenti depuis ?
Depuis le JDD, où elle disait hier, effectivement...
Oui, puis bon, mais moi...
Je pourrais ne pas y aller si... Je le répète,
je pense que dans cette période un peu difficile...
C'est pas du témoignage,
de se battre jusqu'au bout pour ses idées.
Merci Benoît Hamon, avec Ludovic
Merci
Piétenu.
À vous de votre invitation.
La météo, journée pas très agréable aujourd'hui avec cette dégradation qui nous concerne à peu près tous, du sud-ouest jusqu'au nord-est. Le temps sera encore pluvieux près des Cévennes. Des pluies soutenues tomberont sur le Pays Basque toute la journée. Température maximale 15 à 20 degrés. Merci à Brice Garcia pour la préparation de ce journal. Prochaine édition à 18h avec Anne Fauquemberg.